Bonjour, c'est Laura Rem, vous écoutez le podcast des idées larges sur Arte Radio. Bonne écoute.
Quand on tombe malade, on sait désormais qu'il ne faut pas forcément prendre des antibiotiques.
Les antibiotiques, c'est pas automatique, vous connaissez évidemment la formule.
Plus on en prend souvent, plus les bactéries deviennent résistantes, et moins les traitements antibiotiques ultérieurs seront efficaces. Aujourd'hui, les bactéries résistantes tuent plus de personnes dans le monde que le sida ou le paludisme.
Et si rien n'est fait, on estime que l'antibiorésistance dans le monde pourrait provoquer un mort toutes les 3 secondes en 2050.
Charlotte Brive est anthropologue au CNRS et dans son dernier livre, Face à l'antibiorésistance, une écologie politique des microbes, elle revient sur l'histoire des antibiotiques, sur leur usage massif bien au-delà de la sphère de la médecine humaine et sur la manière dont ils ont profondément influencé notre économie et notre société. À travers son récit, c'est toute notre perception de la maladie et des microbes qui s'en trouve chamboulée. Comment va-t-on pouvoir se soigner si les antibiotiques ne fonctionnent plus? Doit-on chercher à éradiquer les maladies à tout prix? Faut-il arrêter les antibiotiques? À la base, les antibiotiques sont des molécules qui sont produites naturellement par tout un ensemble de micro-organismes, des levures, des champignons, des bactéries. Le premier antibiotique à avoir été découvert est la pénicilline. Et on raconte souvent la légende de cette découverte accidentelle en 1928.
Si la fenêtre d'Alexander Fleming n'avait pas été ouverte un jour de septembre 1928, et si une petite moisissure n'était pas venue se poser sur un bouillon de culture, il n'y aurait jamais eu cette lutte ardente qui commença dès 1940.
Après ça, il a fallu attendre une quinzaine d'années pour que des chercheurs arrivent à synthétiser la molécule et à l'utiliser de manière thérapeutique. Et c'est à partir des années 40 que les antibiotiques commencent à être produits massivement.
À partir de 1944, on a produit en quantité suffisante pour traiter l'armée américaine, les soldats de l'armée américaine, et en 1945, on est capable de traiter en fait l'intégralité de la population américaine. Et c'est à partir de là qu'on va avoir vraiment une espèce de boom des antibiotiques.
Alors bien sûr, la révolution des antibiotiques a représenté un progrès médical inouï en termes de lutte contre les épidémies. Et de fait, les antibiotiques sont très pratiques, puisque leur large spectre d'action permet de cibler de nombreuses espèces microbiennes. Par exemple, quand on tombe malade, très souvent le médecin va prescrire de l'amoxicilline parce que cette molécule marche contre plein de bactéries différentes. Le problème, c'est qu'on a commencé à s'en servir bien au-delà de la sphère thérapeutique humaine.
Alors ce qui est intéressant dans l'histoire des antibiotiques, c'est vraiment que très rapidement, on va leur trouver tout un tas d'utilisations qui va largement dépasser la santé humaine. Mais ça va très vite, c'est-à-dire que dès 1943, par exemple, on va commencer à utiliser la pénicilline dans les élevages pour traiter les mammites bovines, pour garantir la qualité du lait. Alors, bien, en temps de guerre, hein, donc c'est important de garantir ça. Mais très rapidement, aux États-Unis, on va commencer à utiliser les antibiotiques dans les cheptels bovins, qui sont de plus en plus, et je vais y revenir, sont de plus en plus massifs à cette période-là. Donc très vite, on va leur trouver des applications donc en curatif dans les élevages et en préventif. Donc ça, c'est un premier aspect. Et quand ils ont commencé à mettre des antibiotiques dans la nourriture des volailles, ils se sont rendus compte que les antibiotiques donc à dose très faible permettaient une augmentation de la croissance des animaux. Et donc c'est comme ça que très rapidement, ils ont aussi été utilisés comme promoteurs de croissance.
Très vite, les antibiotiques deviennent donc plus qu'une thérapie qui va soigner des gens malades, ils deviennent ce que Charlotte Brive appelle une véritable infrastructure sur laquelle repose tout notre modèle agroalimentaire. Alors cette notion d'infrastructure antibiotique est originale, elle l'emprunte à d'autres anthropologues, la Britannique Claire Chandler et la Canadienne Michelle Murphy. Et pour comprendre comment ces molécules en sont venues à constituer un pilier indispensable de notre économie, il faut les replacer dans le temps long et dans l'histoire plus large de l'utilisation et de la mise au travail des êtres vivants.
Il faut revenir limite au long XVIe siècle, qui est vraiment un moment de transition important entre féodalisme et capitalisme, qui est aussi en fait le moment en fait d'apparition de la modernité. Et ce long XVIe siècle s'accompagne de ce que plusieurs chercheuses et chercheurs ont nommé l'extériorisation de la nature. C'est-à-dire ce grand moment en fait de partage qui va donner en fait le partage nature-culture qu'on connaît. Il y a les travaux de deux personnes, deux chercheurs et chercheuses que j'apprécie beaucoup, les travaux d'Anna Tsing d'un côté. Et de Jason Moore de l'autre, qui ont une lecture de cette rupture, ou en tout cas de ce changement majeur qui commence au XVIe siècle, qui en ont une lecture que je trouve qui est la lecture la plus écologique, en fait. Et une lecture écologique, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont prendre tous les deux la plantation, le système de la plantation, comme un point pour vraiment comprendre tous les basculements qui vont avoir lieu à cette époque-là. Donc la plantation, en fait, c'est quoi ? C'est un système, en fait, ordonné d'exploitation, de culture, d'êtres vivants par d'autres êtres vivants qui fonctionne sur l'optimisation et au fur et à mesure, on verra, sur la standardisation, la rentabilité, etc. Mais l'exemple paradigmatique de la plantation, c'est la canne à sucre. Ce qui est intéressant, notamment dans ce que Tsing propose de cette plantation, c'est qu'elle montre très bien comment, pour que le système plantationnaire fonctionne, il va falloir couper les êtres qu'on veut exploiter, les êtres vivants qu'on veut exploiter, de leur réseau de relations habituelles. La canne à sucre, par exemple, en fait, a été extraite de son milieu de vie et on l'a mise dans un champ. On a fait de la monoculture et on a commencé à standardiser à la fois les organismes et les méthodes de production. Et donc, Tsing propose de parler de plantationocène pour initier en fait cette période de changement majeur. Et faisant en fait de la plantation le modèle paradigmatique des formes d'exploitation du vivant qu'on va continuer à avoir. C'est ce que fait Moore aussi. Alors lui, il propose le terme de capitalocène, que je trouve peut-être... Alors, je suis partagée, j'aime beaucoup les deux termes. Plantationocène, c'est très parlant. Capitalocène, ce que j'aime beaucoup dans ce terme-là, c'est que ce que propose Moore, c'est de faire du capitalisme non pas un système économique, mais une écologie, en fait. Ce qu'il décrit, le capitalisme, c'est un ensemble de relations d'écologie simplifiée, c'est ce que raconte Tsing aussi avec la plantation. En fait, ce qu'on a, c'est pas l'absence d'écologie, et c'est ça qui est intéressant. C'est pas genre il y a des gens qui sont écolos et d'autres non. En fait, le capitalisme est une écologie. Et poser ça comme ça, c'est hyper fort parce que ça permet de comprendre beaucoup plus de choses.
Je trouve ça intéressant de revenir au sens premier du mot écologie. Le plus souvent, l'écologie, c'est un courant de pensée qui vise à protéger la nature, pour le dire vite. Mais à l'origine, le terme renvoie à une science dont l'objet est l'étude des interactions des êtres vivants avec leur milieu et entre eux. Et donc on peut analyser le capitalisme de plusieurs manières, comme un système de production par exemple, mais aussi comme une certaine écologie, une écologie simplifiée, telle que la représente la plantation. Et dans cette écologie-là, l'antibiotique joue un rôle fondamental.
Alors pourquoi c'était important pour moi de revenir sur cette histoire-là ? Parce que ce qui va se passer dans les siècles suivants, ça va être une espèce d'accélération, d'intensification, de densification du système des plantations. Si on prend l'élevage animal, puisque c'est là où je vais en venir avec les antibiotiques, ça voulait dire quoi ? Ça veut dire qu'on va prendre des animaux, on va les mettre dans des espaces de plus en plus restreints, puisqu'on va vouloir un gain de place. Et alors, ce qu'il faut savoir d'un point de vue épidémique, c'est que quand on met des animaux dans un espace extrêmement restreint, bien évidemment, on va augmenter la possibilité de transmission d'un agent pathogène. Il n'y a pas de distanciation sociale. Et cette vitesse de transmission élevée, elle est en plus redoublée par un autre problème qui est que la plantation repose, comme je vous le disais, à la fois sur la monoculture, mais aussi donc sur la sélection génétique. Et donc le problème quand on a une très faible diversité génétique, c'est que quand un pathogène arrive là-dedans, s'il y a un des individus du cheptel qui est sensible aux pathogènes, a priori tous les autres le sont aussi. Et donc on a construit des espèces de bombes épidémiques, hein, voilà, ces espèces de grands entrepôts dans lesquels, alors je parle même pas de la maltraitance animale, hein, voilà, vraiment du point de vue purement microbien en tout cas, c'est formidable, ça arrive et puis ça, voilà. Et donc pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que qu'est-ce qui se passe avec les antibiotiques ? Les antibiotiques, ça permet de prévenir les épidémies dans les élevages, ça permet de traiter quand il y en a, ça permet de faire grossir les animaux plus vite. Et donc, l'hypothèse que j'ai posée, qui n'est pas que la mienne, hein, je veux dire, il y a beaucoup de travaux là-dessus, c'est qu'en fait, on a une intensification qui est redoublée par la possibilité qu'offrent les antibiotiques, justement, de résoudre ces problèmes-là.
Les Chinois l'appellent l'hôtel à cochons. À 1000 km de Pékin, voici la plus grande porcherie au monde. Un bloc de béton rectangulaire de 26 étages où peuvent s'entasser jusqu'à 600 000 bêtes.
Tout ça, ça serait possible, mais ça ne serait pas possible à un tel niveau sans les antibiotiques. Et donc c'est en ça vraiment qu'on peut parler donc vraiment d'infrastructures antibiotiques.
On arrive donc à une situation où ces molécules représentent un rouage essentiel de notre modèle agricole. Le seul problème, c'est qu'il s'avère que les bactéries ont vite développé génétiquement un arsenal de protection pour lutter contre les antibiotiques qui les menacent. Pour prendre un exemple, la bactérie Escherichia coli, qui est responsable d'infections urinaires, elle présente aujourd'hui environ 10% de résistance aux antibiotiques de référence. À quel moment est-ce qu'on prend conscience de ce risque qu'il y ait des bactéries qui puissent résister aux antibiotiques ?
Très rapidement, les chercheuses et les chercheurs vont se rendre compte que les bactéries trouvent des moyens de résister aux antibiotiques de façon naturelle. Et il y a plusieurs mécanismes en fait qui permettent d'évoluer et de muter. En fait, il y a ce qu'on appelle les mutations ponctuelles, donc les bactéries en fait se reproduisent, et puis dans ces mécanismes de reproduction, il y a du brassage génétique, il va y avoir une espèce de créativité constante par l'évolution qui font que ces bactéries vont trouver des moyens de résister. Ça, c'est un problème dont on est conscient très très vite. Fleming, dans son discours de remise du prix Nobel, explique qu'il y a de la résistance. Alors lui, la conclusion qu'il en tire, c'est si vous utilisez de la pénicilline, faut y aller quoi. C'est pas du microdosage, faut y aller à fond, faut pas laisser à la bactérie le temps de trouver des parades et de devenir résistante. Rapidement derrière aussi, on se rend compte, et c'est ça qui est en fait absolument terrifiant dans toute cette histoire, c'est que dès les années 60, on a des rapports qui montrent qu'il y a des transmissions de résistance qui se font, notamment en Angleterre, dans des fermes. On se rend compte que la résistance qu'acquiert les bactéries dans les fermes, ces bactéries en fait sont transmises ensuite aux vétérinaires, aux fermiers, à sa famille, etc. Et donc très rapidement, on sait que la résistance aux antibiotiques se transmet entre les espèces et à plein d'échelles différentes. Ça, c'est quand même dans les années 60. Donc il va falloir attendre vraiment très longtemps. En Europe, les promoteurs de croissance vont être interdits quand même au début des années 2000. Il faut attendre 2013 pour qu'on ait le rapport de Sally Davis qui vraiment jette un pavé dans la mare en disant que le problème de l'antibiorésistance c'est équivalent en fait au problème du réchauffement climatique et que là maintenant, si on ne fait rien, on va vraiment être très très ennuyé. Et donc là, on commence à sortir des chiffres qui sont très impressionnants.
Like climate change, we humans are doing it to ourselves, but it could kill us before climate change does. It is a very important area, and we are underinvesting in sorting it out. It seems that humanity is not very good at sorting out a problem that's growing very slowly. At least 10 million could die every year if we don't get on top of this.
Alors en France, qui est l'un des pays les plus consommateurs d'antibiotiques en Europe, les pouvoirs publics ont commencé à réagir dans les années 2000 et la campagne de sensibilisation a permis de baisser de 20% la consommation générale dans le pays.
T'as l'air malade ?
Oui, j'étais chez le médecin, j'ai une angine.
T'es sous antibiotiques ?
Non.
Donc t'es pas malade ?
Si, j'ai une angine.
Alors t'es sous antibiotiques ?
3 angines sur 4 sont d'origine virale et se soignent sans antibiotiques.
T'es sous antibiotiques ?
Non.
Donc t'es pas malade.
T'as l'air malade. T'es sous antibiotiques ?
Non.
Et t'es pas malade alors ?
Alors il y a quand même la campagne « Les antibiotiques, c'est pas automatique », avec l'idée qu'il faut faire attention de pas justement trop en donner ou faut faire attention à bien suivre le traitement jusqu'au bout pour pas avoir sous-dosé.
Ouais.
Ça quoi, c'est dérisoire par rapport
c'est pas complètement dérisoire. Le problème qu'il y a, c'est que oui, il faut faire très attention à la façon dont on utilise les antibiotiques, mais le problème de tout cela, c'est que ça fait systématiquement reposer en fait le poids du problème sur l'épaule des individus. C'est-à-dire que l'antibiorésistance, c'est un problème de gens qui savent pas prendre leur traitement ou qui le prescrivent pas correctement. Qu'on a dit avant montre que quand même, il faut savoir que la plus grosse partie du volume d'antibiotiques produits annuellement, en fait, est à destination des animaux d'élevage. Donc voilà, on a 70 milliards de poulets, 36 millions de bœufs, enfin, on parle vraiment en dizaines de millions d'animaux qui sont produits chaque année, vraiment produits, hein, c'est-à-dire que voilà, avec l'aide des antibiotiques. Donc moi, je veux bien qu'on continue à parler des problèmes des gens qui prennent très mal leur traitement, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'antibiorésistance circule tellement que des gens qui n'ont jamais pris d'antibiotiques dans leur vie sont porteurs de bactéries qui, elles, sont antibiorésistantes. Aujourd'hui, on a des antibiotiques dans les eaux, dans les sols, etc., et à des doses, justement, minimes. Exactement ce que Fleming disait qu'il fallait éviter. Donc, en fait, on a une espèce de sous-dosage complet partout, maintenant, dans les milieux. Et donc, voilà, on n'a plus besoin d'injecter davantage d'antibiotiques dans la machine, ça circule tout seul, quoi.
Je dois avouer qu'autant la catastrophe en cours liée au dérèglement climatique, je l'avais bien en tête, autant je pense qu'on a encore du mal à prendre la mesure de ce qui est en train de se passer avec l'antibiorésistance. Non seulement tout un tas de maladies qui avaient été rendues bénignes, notamment des infections respiratoires, sont de nouveau mortelles, mais tout notre système agroalimentaire repose sur des molécules qui sont de moins en moins efficaces. Alors tout n'est pas complètement noir. Ce que j'ai découvert grâce au livre de Charlotte Brive, c'est qu'il existe une autre manière, peu connue, de combattre les infections bactériennes, ce sont les phages, qui sont en fait des virus qui ont été découverts entre 1915 et 1917 par un biologiste, Félix Derel. Alors, petit rappel sur la différence entre les bactéries et les virus. La bactérie peut vivre de manière autonome, alors que le virus a besoin d'un hôte pour survivre et se reproduire. C'est donc un parasite. Or, les phages ou bactériophages sont des virus qui ont pour hôte des bactéries.
Ces virus bactériophages, on les trouve donc partout où il y a des bactéries. Les virus bactériophages sont les entités biologiques les plus représentées sur la planète, mais c'est aussi quelque chose que peu de gens connaissent. Et c'est absolument fascinant. C'est fascinant pour deux raisons. D'abord, comme c'est des virus qui sont inoffensifs pour les humains, ça permet de développer un autre type de pensée que celui sur le mode épidémie virale, etc. Et donc, c'est très réjouissant et très créateur pour réfléchir en fait aux relations entre les humains et les microbes. Et donc, la thérapie phagique ou la phagothérapie, c'est quoi ? Donc, comme ce sont des virus de bactéries, ils ont des relations très complexes avec les bactéries depuis plusieurs milliards d'années. Mais parmi les relations qu'ils entretiennent avec la bactérie, il y en a une où ils se servent d'elle pour se reproduire. Et en se reproduisant dans la bactérie, ils provoquent la mort de la cellule bactérienne.
Le phage est un virus inoffensif pour notre santé, puisque chacun ne tue que la bactérie avec laquelle il coévolue. À l'aide de crochets, il se fixe à la surface de sa proie. Puis, il fait un trou pour injecter son matériel génétique. À peine entré, il détourne la machinerie cellulaire de son hôte pour se multiplier à toute vitesse. Au bout de 30 minutes, la bactérie explose en libérant des centaines de nouveaux phages. Chacun part tuer une nouvelle bactérie.
Et donc, dans un contexte thérapeutique, c'est super intéressant. Et Félix Derel, dès le départ, en fait, comprend cet intérêt et sans savoir que c'est des virus, utilise les virus bactériophages à des fins thérapeutiques pour traiter des infections bactériennes. Et c'est ce qui va se passer, en fait, pendant très longtemps. Après, il y a des effets cliniques qui vont essayer d'être mis en place, etc. Mais c'est compliqué parce que justement, on n'a pas le statut du virus, on ne sait pas très très bien comment ça fonctionne. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en plus, parallèlement à ça, les antibiotiques vont être découverts, puis on va être capable de les produire et de les utiliser hyper facilement. Et donc, cette thérapie phagique qui se développe tranquillement depuis un certain temps, avec des hauts et des bas, va finalement plus ou moins être éclipsée. Disparaître à partir des années 40. Au début des années 2000, on a commencé à la redéployer, mais alors les personnes qui ont voulu la développer se sont quand même heurtées à une hostilité très très forte, y compris de la part des virologues, parce que un virus c'est méchant, un virus c'est forcément pathogène, c'est dangereux, et donc hors de question de parler, de traiter des gens avec des virus.
Attention, je suis contagieux.
Une des difficultés auxquelles se heurtent les personnes qui essaient de promouvoir ces thérapies, c'est donc celle de l'imaginaire qui entoure les virus. Et c'est pour ça que Charlotte Brie fait très attention au vocabulaire qu'elle emploie. Et par exemple, à un moment pendant une interview, elle s'est corrigée.
Le phage, il injecte son... Alors, j'aime pas dire injecter, mais donc le phage transmet son ADN dans le cytoplasme.
C'est marrant comment vous êtes repris sur le mot « injecter ». Et c'est quelque chose, vous en parlez ailleurs dans le livre aussi, de l'importance du vocabulaire, de justement pas forcément dire que le phage tue la bactérie, même si elle meurt dans le processus, mais elle ne l'a pas tuée. Donc ça, c'est important dans la manière d'en parler.
Oui, la question du vocabulaire, à mon sens, elle est très très importante parce que il y a déjà plein de travaux qui portent, notamment chez les féministes et les épistémologues féministes, sur l'importance en fait des métaphores dans les sciences du vivant. Donc Evelyn Fox Keller, qui est une historienne des sciences remarquable, a beaucoup travaillé sur cette question-là. Emily Martin, qui est une anthropologue, a aussi beaucoup, beaucoup travaillé. Elle a fait un livre remarquable sur la notion d'immunité et sur toutes ces métaphores, en fait, qui sont développées. Et très souvent, en fait, ce qu'on a, ce sont des métaphores guerrières.
Nous sommes en guerre.
On a des chasseurs de virus, les virus sont des entités dangereuses qui sont tapies dans des grottes sombres et humides, Et puis, donc, le courage des hommes, c'est quand même principalement des hommes qui vont prendre le problème à bras-le-corps et pour nous ramener tout ça. Et le problème, c'est qu'en fait, ça nous donne une image des virus qui forcément ne sont que dangereux, pathogènes, etc. Alors que, en fait, quand on regarde un petit peu les relations entre les virus et leurs hôtes, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et si on va plus loin, dans notre microbiote, par exemple, on a des bactéries et ces bactéries, elles interagissent en permanence avec les phages. Et probablement que les virus bactériophages ont aussi des rôles ambigus, mais qui sont absolument pas réductibles à une question de pathogène. Donc, je pense qu'à partir du moment où on veut avoir un regard, et à partir du moment où on veut utiliser les microbes dans les projets des humains, il faut vraiment avoir conscience en fait de toute cette pluralité de modalités d'interaction à la fois entre les phages et les bactéries, les phages, les bactéries et les êtres humains.
Cette mauvaise image du virus n'a donc pas joué en la faveur des thérapies phagiques, mais le plus gros obstacle à leur développement vient surtout de l'industrie antibiotique. Et c'est là qu'on voit encore une fois l'influence énorme qu'ont les antibiotiques dans notre société, puisqu'ils en sont venus à définir ce que doit être un médicament, les critères à cocher pour avoir ce statut de médicament, et les preuves à fournir pour démontrer l'efficacité d'une molécule.
Le problème, c'est pas qu'il y ait des essais cliniques sur les phages. Le problème, en fait, c'est que ces essais cliniques ne sont pas faits, ou en tout cas ne sont pas pensés pour les phages. C'est pour ça que j'avais parlé, en fait, d'infrastructures onto-épistémologiques, c'est-à-dire ontologiques, parce que, en fait, les antibiotiques définissent ce que doit être un agent anti-infectieux. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut être un agent anti-infectieux, il faut qu'on fasse comme les antibiotiques. Et c'est aussi, en fait, une infrastructure épistémologique, puisqu'en fait, même la façon dont on va devoir prouver l'efficacité d'un agent anti-infectieux, ça va être de la même façon qu'on le fait pour les antibiotiques. Et donc, très, très curieusement et de façon en fait presque perverse, les antibiotiques en fait constituent un frein au développement d'une thérapie qui pourrait contribuer à résoudre le problème qu'ils créent.
Non seulement les antibiotiques ont conditionné notre définition même de ce que doit être un médicament, mais ils risquent d'influencer la manière dont l'industrie pharmaceutique pourrait être amenée à développer les thérapies phagiques.
Quand on a voulu commencer à redévelopper la thérapie phagique, on a dit on fait des médicaments. Ça, pourquoi pas, à la limite. Mais le vrai problème, c'est qu'on fait des médicaments comme les antibiotiques. Donc, il y a, pour simplifier, deux façons de les utiliser. Soit on fait ce que les Belges appellent du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on ne prend, donc on fait des collections de phages, on va les chercher dans la nature, etc., on les purifie, machin. Et on va prendre, pour traiter une personne malade, que les deux ou trois phages de la collection qui sont très actifs sur la bactérie. Ça, c'est du sur-mesure. Et c'est ce que veulent, en fait, tous les gens qui travaillent sur la thérapie phagique, pour des tas de raisons, parce que ça permet d'abord de ne cibler que la bactérie responsable de l'infection et donc de préserver le microbiote dont on sait aujourd'hui qu'il sert à plein de choses, même si on ne sait pas trop quoi encore. Ça permet d'avoir une plus grande efficacité et d'éviter l'apparition de résistance, puisque si vous mettez un phage qui n'est pas très actif, la bactérie elle a la possibilité de trouver des... Voilà, ça fait 3 milliards d'années qu'il coévolue, hein, donc elle va trouver des parades. Et puis surtout, ça permet aussi d'éviter une forme de massification. Et ça, c'est par rapport au deuxième schéma thérapeutique auquel ils ont pensé, qui est de faire des cocktails de phages. C'est-à-dire, on va pas s'embêter à faire du sur-mesure, on va prendre plein de phages de nos collections, on va les mettre dans un cocktail, et puis comme ça, on pourra produire de façon un peu plus importante et puis soigner de façon un peu plus massive. Et on retombe sur un modèle un peu... pour mimer l'effet un peu large spectre des antibiotiques. Et le problème, en fait, du large spectre, ou en tout cas des cocktails de phages, à mon sens et au sens des personnes avec lesquelles j'ai beaucoup discuté, c'est que si on commence à pouvoir les produire de façon massive et les utiliser de façon massive, on va retomber sur le même problème que l'antibiorésistance. Sauf que là, on parle de virus et que personne ne sait à l'heure actuelle, même si les phages sont présents partout, ce que pourrait provoquer le relargage massif à un endroit donné de phages. Donc, il y a une précaution, cette fois-ci écologique, de préservation des milieux, en fait, qui fait qu'on privilégie le sur-mesure plutôt que cette histoire de cocktail prêt-à-porter.
Une thérapie phagique sur mesure qui cible uniquement la bactérie responsable de l'infection serait donc très intéressante d'un point de vue non seulement médical, mais aussi écologique. Dans le sens où ça romprait avec la logique éradicatrice des antibiotiques à large spectre qui détruisent tout sur leur passage.
Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, quand tu éradiques, tu libères une niche et tu ne sais pas ce qui va venir prendre la place. Et ce qui va prendre la place, peut-être que ça va être encore pire. Et c'est l'intérêt, en fait, de repenser nos relations avec les microbes et de les voir, effectivement, non pas uniquement comme quelque chose de très binaire, c'est pathogène ou c'est ami, c'est la guerre ou c'est la paix. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, en fait, il faut replacer tout ça au sein d'une écologie des relations. Donc, c'est aussi ça qu'apprennent, en fait, les relations entre les phages et les bactéries et plus globalement, en fait, nos relations aux microbes. Ce que nous montrent, en fait, les microbes, ce que nous montre l'antibiorésistance, c'est que, justement, en fait, on contrôle rien, quoi. Donc, il faut arrêter de penser qu'on contrôle quelque chose. Si on veut utiliser les microbes dans les projets des humains, il faut se dire qu'il y aura forcément des conséquences.
Il ne s'agit pas pour Charlotte Brive de dire qu'il faudrait vivre joyeusement avec les bactéries et arrêter les antibiotiques. C'est justement pour préserver leur efficacité qu'il est urgent d'adopter une conception plus écologique de la maladie et de réfléchir à la manière de composer avec les microbes qui auront toujours la capacité de faire autre chose que ce qui est attendu d'eux. Vouloir les éradiquer est aussi dangereux qu'illusoire, car à la fin, les bactéries gagnent toujours.
Merci d'avoir écouté le podcast des Idées Larges. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast ou sur arteradio.com. Et pour regarder l'émission originale, retrouvez-nous sur arte.tv.